France Culture. France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
Fin juin 2026, Orelsan, les Maroon 5 et DJ Snake donneront successivement un concert au château, au domaine même de Chambord. Pour autant, cette modernité et ces nouvelles approches culturelles dans les lieux au passé chargé créent parfois quelques remous, certains dénonçant une Disneylandisation du patrimoine. Alors, faut-il nécessairement passer par une programmation diversifiée pour attirer des publics variés et plus jeunes? Le patrimoine est-il aujourd'hui pensé de manière trop commerciale? Deux invités ce soir pour en débattre. Pierre Dubreuil, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur général du domaine national de Chambord. Face à vous, Didier Rickner, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur de la rédaction de latribunedelart.com. Merci à vous deux d'être présents ce soir dans Question du soir. Et avant de parler de DJ Snake, de Maroon 5, d'Orelsan également, je voudrais vous interroger sur le rapport des Français au patrimoine, sur votre rapport au patrimoine. Est-ce un rapport, j'allais dire, qui est lié à l'histoire, à l'identité, à la culture, à la connaissance, à l'intimité, à la mémoire, au temps, à l'universalisme? Didier Rickner, cette passion du patrimoine, d'où vous vient-elle?
Elle me vient, en fait, j'ai découvert l'histoire de l'art un petit peu tard, et ça me vient d'abord de la beauté du patrimoine. Je pense qu'on ne peut pas vivre, à mon sens, dans un environnement qui serait totalement dégradé. Or, le patrimoine participe de cette beauté autour de nous. Quand on voit un château, le château de Chambord, évidemment, quand on voit un musée, une œuvre d'art, c'est important. Quand on lit un livre de Victor Hugo, enfin, ça fait partie de la culture, donc de la, et on peut pas vivre sans cela. Moi, je ne peux pas vivre sans cela. C'est superflu, mais c'est indispensable.
C'est d'abord et avant tout un rapport esthétique.
Esthétique, d'histoire également. On ne peut pas vivre aujourd'hui si on ne sait pas d'où on vient. On ne vient pas de nulle part. Donc, voilà, c'est vraiment un rapport d'histoire, de continuité. On doit transmettre cela, en plus, c'est très important. J'ai des enfants, et même si je n'avais pas d'enfants, on doit transmettre cela à ceux qui viendront après nous. On est mortels, et on doit conserver la beauté du monde, me semble-t-il. Enfin, c'est obligatoire. Et pour moi, le patrimoine va avec l'écologie, la vraie écologie, pas l'écologie qu'on entend parfois trop, c'est-à-dire l'environnement, un environnement préservé, des paysages. Le patrimoine, c'est aussi des paysages. Tout cela, ça fait partie de quelque chose qui, pour moi, m'est indispensable. Et je n'aurais aucun intérêt à vivre s'il n'y avait pas cela.
Pierre Dubreuil, vous qui dirigez le domaine national de Chambord, quel rapport vous entretenez au patrimoine? Peut-être même déjà à ce château que vous connaissez si bien.
Si bien, c'est une histoire d'amour en fait. Moi, je suis d'accord avec ce que vient de dire Rickner et avec tous les qualificatifs. D'ailleurs, j'ai eu du mal à en choisir un dans votre introduction, parce que moi, je parle pas d'un patrimoine, je parle des patrimoines. Il se trouve qu'à Chambord, c'est une alliance, une symbiose, une sorte d'alchimie d'ailleurs entre le patrimoine culturel, le patrimoine naturel, la beauté. Enfin, moi, je suis tombé. Ouais, j'en ai des frissons quand je parle de Chambord, parce qu'un jour, j'ai décidé d'être candidat à ces fonctions parce que j'ai eu un coup de cœur esthétique, émotionnel, en voyant cette sorte d'image, d'imaginaire, de fantasmagorie. Imaginez-vous ces tours, cette symétrie, en même temps cette asymétrie totale, sorte d'œuvre de génie, parce que Chambord, c'est pas un château de la Loire comme un autre, enfin, sans être d'ailleurs méprisant vis-à-vis des autres, on n'est pas en concurrence avec les autres châteaux de la Loire, sont magnifiques, mais c'est une œuvre d'art symbolique, et en même temps, c'est une part d'histoire de la France. Donc il y a forcément une affaire d'identité, de mémoire et bien sûr de transmission. Ensuite, et c'est l'un des sujets du jour, il faut qu'il soit vivant ce patrimoine, parce que une fois que vous avez la grande image, la petite image, le paysage, tout ça peut disparaître. Il y a des éléments du patrimoine qui ont disparu. Mais évidemment, il nous appartient, nous, dépositaires de ce patrimoine, moi, en l'occurrence, dépositaire du domaine national de Chambord, de ce château et de cette forêt, dont finalement, la forêt est un écrin du château. C'est comme si vous avez un diamant au milieu d'un écrin forestier qui est classé également monument historique. Bah, c'est comme les pyramides, c'est comme le Taj Mahal, c'est comme ces grandes œuvres, y compris plus contemporaines d'ailleurs, on doit les transmettre aux générations futures. C'est une obligation. Pour moi, c'est même une mission de service public.
Le diamant de la forêt, c'est comme ça que l'on appelle parfois le château, le domaine
de Chambord.
Oui, j'avais
beaucoup de poètes, d'écrivains ont écrit là-dessus, Alfred de Vigny, Victor Hugo, qui ont été frappés par la vision de Chambord, et que vous arriviez, il y a cinq entrées, que vous arriviez d'une ou d'une autre entrée, vous n'avez pas la même vision.
Alors entrons pleinement dans le débat. Vous venez de nous expliquer, Pierre Dubreuil, qu'il fallait rendre ce patrimoine vivant. Est-ce que c'est un élément de langage, ou est-ce qu'on peut rendre effectivement sa vitalité au patrimoine, et comment s'y prendre?
Non, c'est pas un élément de langage ni un effet de mode d'ailleurs. Moi, je fais pas. Enfin, j'organise pas des spectacles avec des stars de la pop uniquement pour faire bien et parce que c'est un effet de mode. C'est que ce patrimoine, il doit être transmis. Pour être transmis, il faut qu'il soit fréquenté. Pour qu'il soit fréquenté, il faut qu'il attire. J'ajoute au passage que le modèle économique de Chambord, c'est un établissement public industriel et commercial. C'est pas ça le mot commercial, c'est que nous on doit être autofinancé sur nos charges de fonctionnement. Je parle pas de l'entretien du monument, c'est un autre sujet. Mais fonctionnement, on doit vivre. Donc pour vivre, il faut attirer. Et c'est pas ces spectacles d'ailleurs qui nous rapportent de l'argent. Aurel San, Maroon 5 et DJ Snake, ça va pas nous rapporter de quoi restaurer l'aile François 1er, soyons très clairs. Même pas de quoi payer nos salaires.
30 000 personnes qui viennent au domaine de Chambord pour, 30 000 personnes qui viennent au domaine de Chambord pour assister à un concert, de David Guetta, par exemple, ça ne vous rapporte pas d'argent?
Non. Ça rapporte pas beaucoup d'argent. Il y a un producteur qui organise ça. Ça rapporte un petit peu, mais très franchement, quelques dizaines de milliers d'euros. Voilà. En revanche, ça fait venir un public ces jours-là à Chambord qui ne viendrait pas à Chambord s'il y avait pas ces concerts-là. Moi, je peux vous le dire. Je vois des gens quand ils viennent voir Guetta, Imagine Dragons, et quand ils viendront voir Aurel San de DJ Snake, j'en suis convaincu et je l'ai vu, qui ne viendraient pas, qui ont un âge, qui sont très jeunes, qui ont un phénotype qui n'est pas celui du visiteur habituel de la famille classique. Et je pense qu'avec ces visiteurs, on sème des graines d'avenir, parce qu'ils reviendront avec leurs enfants dans 10-15 ans, parce qu'ils sont, je le vois dans leurs yeux, ils sont émerveillés par la beauté du lieu où ils sont. Donc ils viennent à la fois voir une star du pop, de la pop ou du rap qui leur plaît, et en même temps, ils prennent contact avec un élément du patrimoine dont ils ont entendu parler, mais qu'ils ne connaissaient pas. Et vous savez qu'on vient de voir Renaud Capuçon, La Vierge à l'enfant de Botticelli ou Aurel San, pour moi c'est pareil.
C'est une bonne idée pour vous, Didier Rickner, de faire venir des stars de la pop comme ça dans un lieu comme celui du château, du domaine de Chambord. David Guetta, Aurel San, Maroon 5, DJ Snake, vous iriez d'ailleurs?
Alors non, alors je suis assez partagé. Moi je viens vu Ringard, d'abord vous parlez, alors David Guetta et Aurel San je connais un petit peu, les autres je connais pas du tout, donc j'entends le Renaud pour la première fois, je suis trop vieux pour ça. Je ne suis pas a priori opposé à cela. Est-ce qu'il faut... c'est que ça n'empêche pas les visites habituelles, donc je suppose que c'est le soir, et voilà, ça ne change rien. Et il faut surtout que ça préserve le domaine. Je suis sûr que vous prêtez attention, mais je veux prendre des exemples. J'ai appris très récemment, je ne sais plus si c'est dans le rapport de la Cour des comptes ou ailleurs, qu'au Louvre, dans le passage des poules qui se trouve sur la colonnade en haut, il y avait des pastels exposés, et qu'il y a eu un défilé de je ne sais plus quelle grande société qui a fait du bruit, bong, 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 et les pastels ont souffert. Mais ça, c'est monstrueux. C'est monstrueux, c'est-à-dire que quand il y a du bruit ou de la musique qui fait quand même un peu de bruit, il faut faire attention à ce qu'il n'y ait rien. Je pense qu'à Chambord, il n'y a rien qui craigne parce qu'il n'y a pas suffisamment d'œuvres. On pourra peut-être en reparler à l'intérieur. C'est le château qui a lui-même une œuvre. Donc, oui, pourquoi pas faire ça si ça ne met pas en péril le château et si ça n'empêche pas les gens de visiter autrement. Pourquoi pas? Je préfère que ça soit Renaud Capuçon plutôt qu'Aurel San. Personnellement, je pense que avec un château comme Chambord, c'est plus de la culture classique, mais c'est vrai qu'encore une fois, je suis un vieux ringard, voilà.
Un extrait du concert de David Guetta à Chambord, je voudrais vous faire commenter ensuite l'un et l'autre ce que vous avez entendu.
David Guetta, merci à tous.
Pierre Dubreuil, vous nous disiez là à l'instant en écoutant David Guetta que l'émotion renaissait en vous. Alors expliquez-nous.
Bah parce que ce concert était une émotion forte, parce qu'on a failli l'annuler au dernier moment à cause de la météo qui était catastrophique, et qu'au moment où Guetta dit Chambord, les premières gouttes commencent à tomber, et il va perdre une platine sur deux. Et ça va être un très grand moment du genre de Woodstock. Tous ceux qui étaient à ce concert-là s'en souviennent.
De Woodstock, carrément.
C'est-à-dire que tout le monde était complètement mouillé. Il faisait 15 degrés, il faisait pas très chaud, mois de juillet, et il a tout donné. C'était pas Guetta Ibiza. En fait, il était en communion avec le lieu. C'est pour ça que j'entends ce que dit Didier Rickner. Mais ce que je veux, c'est attirer sans dénaturer. Évidemment, d'ailleurs, le producteur qui organise ces concerts, je lui dis, c'est mon droit de veto, c'est que je n'accueille pas d'artistes qui ne considèrent pas qu'ils ne sont pas la seule star quand ils viennent. L'autre star, c'est le château de Chambord.
Mais en quoi ça sert Chambord, alors, un concert comme celui-ci? Vous nous dites, au fond, c'est utile d'attirer de nouveaux publics, des jeunes, mais ce concert, il est à côté du château, il est dans le domaine. Est-ce que ces jeunes, les moins jeunes d'ailleurs, qui viennent assister à un concert comme celui-ci, ils jettent un œil, un regard, une attention au château de Chambord lui-même?
Mais il ne faut pas que jeter un regard. C'est que le jour où ils viennent, c'est 5000 personnes dans le château. Si vous voulez, avant le concert du soir, en effet, il a lieu le soir, et le château n'est pas du tout abîmé, c'est qu'ils viennent, ils achètent leurs billets et ils visitent le château. Donc en fait, on leur permet d'accéder à la visite, à l'expérience du château de Chambord, et ensuite à leur concert. La complémentarité est parfaite.
Je crois qu'il faut effectivement attirer un public qui ne viendrait pas, mais je ne suis pas certain que l'objectif, ça soit d'attirer tout le monde. Moi, je ne suis pas forcément intéressé par le foot. Je ne vais pas voir le foot. On ne m'oblige pas à aller voir le foot. On ne va pas mettre du classique dans le foot pour que je vienne voir le foot. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il faut donner les meilleures conditions d'accueil possibles aux personnes. Il faut leur donner des événements qui soient, à mon avis, le mieux en rapport avec... Il faut que les gens viennent pour cela. Et je pense qu'il... Bon, mais encore une fois, je ne veux pas critiquer cela. Si c'est fait dans toutes les conditions que j'ai données, et j'en suis sûr que ça l'est, je ne suis pas contre. C'est pas trop ma tasse de thé, voilà.
Vous avez pointé quand même, Didier Rickner, un autre risque en préparant cette émission liée à la spectacularisation du patrimoine français, et pas nécessairement d'ailleurs au sujet de Chambord, c'était une forme de réécriture de l'histoire. Quand on aborde telle thématique, au fond, on peut aussi déformer les faits historiques, déformer notre rapport même au patrimoine.
Ça, je pense que c'est le cas dans certains spectacles historiques. Alors ça, c'est pas un spectacle historique, Orelsan, il va pas déformer l'histoire. Mais je pense, par exemple, j'avais pris l'exemple, au château de la Barbin, qui est un château privé, avec lequel j'ai vraiment beaucoup de problèmes, parce que c'est un château, c'est Rocher Mistral, vous savez, ils ont renommé cela, c'est dans le sud de la France, c'est dans les Bouches-du-Rhône, et là, ils font des spectacles historiques, entre guillemets, qui sont totalement à côté de l'histoire, qui racontent une histoire complètement fantasmée, qui n'a aucun rapport avec la réalité.
Quelle histoire, pour qu'on puisse comprendre de quoi vous parlez?
C'est l'histoire du château, avec les révoltes paysannes, avec, ça parle également de l'époque napoléonienne, ça parle, par exemple, prenons un exemple, il y a un jardin, qui d'ailleurs est pas bien traité, parce que tout le château est maltraité. Il y a un jardin, c'est le jardin de Lenôtre, mais c'est pas de Lenôtre. Tous les historiens ont montré que c'était pas de Lenôtre. Et ils l'appellent le jardin de Lenôtre, parce que ça fait bien. Donc voilà, j'ai pas les exemples en tête sur ce spectacle, mais je sais que c'est au point de vue historique, et tous les historiens qui se sont penchés là-dessus ont dit que c'était vraiment n'importe quoi. Et ben, ça n'est pas bien. Ça n'est pas bien. On fait venir, dans un lieu historique, quelque chose, des gens pour leur raconter une histoire qui n'est pas véritable, qui n'est pas la vraie histoire, et surtout en plus on abîme l'environnement, le bâtiment, le patrimoine, et ça me choque.
Vous souhaitiez en parler, Pierre Dubreuil, du spectacle vivant et de la politisation du spectacle vivant au sein du patrimoine français?
Déjà, moi je suis aux antipodes de ce. Je suis d'accord avec Didier Rickner et je suis même aux antipodes de ça parce que je pense que non seulement il faut respecter l'histoire du lieu, mais il faut être extrêmement rigoureux. Enfin, Chambord, c'est un établissement public culturel, donc qui a un devoir de transmission et de transmission de l'histoire dans sa vérité, sa rigueur. Je vous donne un exemple. On fait un spectacle sur Chambord, l'histoire à cheval. Les 10 tableaux qui sont présentés sont des tableaux de l'histoire vécue à Chambord. On ne va pas inventer une histoire qui n'a pas existé. Je peux vous dire que j'y ai veillé scrupuleusement à ce que chaque tableau retrace les 5 siècles d'histoire depuis François Ier jusqu'à la Ve République.
L'histoire de France est suffisamment riche pour qu'on n'aille pas inventer quelque chose.
Et je vais même plus loin. C'est que quand on recrée, là, je veux restaurer l'aile François Ier. Quand on recréera dans l'aile François Ier la vie de cour du règne du roi commanditaire de Chambord en respectant y compris le mobilier. Alors, comme il explique, il n'existe plus de mobilier royal de la Renaissance parce qu'il a disparu ou brûlé et que même le musée des Cons de la Renaissance n'a que 3 exemplaires. On peut recréer la limite en 3D du mobilier, mais pas limité. Il faut à partir des sources exactes, historiques, pour recréer l'histoire telle qu'elle a été vécue dans ce château. Ça, moi, je suis intransigeant.
Oui, mais alors, dans le même temps, il y a eu une polémique cet été, on le sait bien, l'annulation d'un spectacle au château de Chambord, spectacle dont la conception avait été confiée notamment à un historien de renom, Patrick Boucheron. Là, les faits étaient quand même, j'imagine, rigoureusement suivis, dessinés. Pourquoi avez-vous choisi d'annuler un tel spectacle?
Alors, d'abord, merci de me permettre d'en parler. Je n'ai pas annulé, puisque rien n'était signé. Il y a simplement eu des discussions, peu de temps après mon arrivée, il y a 3 ans, où Patrick Boucheron et Monet El-Khatib m'ont dit qu'ils souhaitaient faire un spectacle populaire, ayant été séduit par le Puy du Fou et le caractère très populaire du Puy du Fou. Je pense en effet que transmettre et
séduit par le Puy du Fou, pas par sa ligne politique et historique,
qu'on imagine, impressionné par l'engouement populaire, bien entendu. Et je trouvais que l'idée était intéressante. Reste que l'évolution du projet, je parle bien de projet, parce que rien n'a été signé et rien n'a été avancé, et aucun financement, a fait que, dans un contexte un peu polémique, puisqu'il y a eu pas mal d'articles où j'apprenais des choses que je découvrais dans la presse, et puis on a vu qu'on est dans une tenaille du combat culturel, j'ai décidé, avec le conseil d'administration de Chambord, qu'on ne pouvait pas engager Chambord, établissement soumis à la neutralité du service public, dans un combat entre contre ou pour le Puy du Fou. Et je vais vous dire tout simplement que si un spectacle historique, et je crois que c'était pas tout à fait le cas du projet spectacle, a lieu à Chambord, il doit respecter précisément ce qu'a été l'histoire de Chambord. Or, je crois qu'il y a des aspects un peu contemporains dans le spectacle qui n'étaient pas tout à fait la vision que j'ai du projet culturel que je défends et qui est approuvé par mon conseil d'administration. Donc c'est la raison pour laquelle, sans aucune polémique et acrimonie d'ailleurs, j'ai considéré que ça n'était pas possible. Puis il y avait un argument majeur, c'était le financement. Enfin, je rappelle, je pense que chacun doit bien comprendre que tout ce qu'on fait à Chambord est autofinancé. Or, un spectacle coûtait, je crois, 2 millions d'euros. Moi, j'ai pas 2 millions d'euros. Déjà, je les cherche pour restaurer l'Alphonse Ier, je les ai pas pour faire un spectacle historique. Et quand je fais venir des gens pour un spectacle, c'est autofinancé, voire rentable.
Bon, la neutralité, on peut la comprendre. Certains, eux, défendent en miroir une forme de liberté de programmer et de liberté académique.
Didier Rickner, liberté de programmer, c'est son droit à l'administrateur de décider de ne pas le programmer.
Et Didier Rickner, quel regard vous portez sur la politisation aussi du patrimoine à travers ces mises en scène, ces spectacles vivants notamment.
Écoutez, là je peux vous parler de la Barbin qui est plutôt un côté historique complètement de droite, très, très à droite, mais une vision fausse. On peut être de droite, mais c'est une vision fausse. Patrick Boucheron, c'est presque l'inverse. Ben moi, je veux ni l'un ni l'autre. Je veux des spectacles.
On peut pas dire quand même que Patrick Boucheron porte une vision fausse de l'histoire. Pardonnez-moi. Non, c'est.
Là, je ne connais pas suffisamment. Je ne connais pas suffisamment. Mais ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas. Je ne sais pas pourquoi vous l'avez annulé, en fait. Donc voilà. Mais
je voudrais vous faire entendre une archive de 1959 et aborder le sujet de la restauration, l'entretien de notre patrimoine. 1959, la grande pitié des châteaux de France. C'est un extrait du Journal des Actualités Françaises.
Pendant 2 mois pleins, les Français ont couru la France. Ils n'ont pas toujours suivi les grands itinéraires. Certains ont abandonné les grands bouts sans surprise et ils ont découvert la grande pitié des châteaux de France. Le château de Viémont en Nivernais était intact voici 20 ans. Voici ce qu'il en reste. Quelques tuiles manquantes l'ont remplacé, la pluie, le vent et l'incurie des hommes ont fait une ruine de cette ravissante demeure où vivait un peu du génie de la Renaissance. En Champagne, voici le château de Maulne, qui n'est plus qu'une bâtisse ruineuse. Ce fut un très bel exemple où s'exprimait la solide harmonie qui donna à Paris les Invalides et Versailles à la France. Aujourd'hui, les belles pierres taillées s'effondrent sous une toiture à jour. Trop coûteux à entretenir, ont jugé un jour les propriétaires. Le château de Maulne n'est plus réparable, il est mort.
Et en 1959, déjà, ce reportage tirait la sonnette d'alarme sur un patrimoine en péril, celui des châteaux de l'Hexagone. On a le sentiment, Didier Rickner, que les châteaux français n'allaient pas bien, déjà, du point de vue, là aussi, de leur état, de leur restauration.
Sûrement, et le château de Maulne, heureusement, n'est pas mort, puisque je l'ai visité il y a 5 ou 6 ans, il a été restauré. Alors, il a été en très mauvais état. Oui, ça, bien sûr, ça existe. Il y a des périodes, il y a des périodes où le patrimoine est plus important que d'autres et où on le laisse, des périodes où on le laisse s'abîmer. Et puis, il y a pas seulement, il y a le problème de l'argent qui ne permet pas de restaurer parce qu'on n'a pas suffisamment d'argent. Ça, c'est une chose, on y reviendra, comme vous l'avez dit, je crois. Puis aussi, la protection du patrimoine et les lois et l'application des lois. Et là, je pense qu'on est dans une mauvaise phase. Il y a eu des mauvaises phases. Par exemple, à Paris, il y avait l'époque Pompidou. Pompidou avait certainement beaucoup de qualités. Mais pour la protection du patrimoine parisien, c'était une catastrophe. Et c'est affreux à dire, mais sa disparition a sauvé, en quelque sorte, Paris, qui n'aurait pas le même visage aujourd'hui s'il avait vécu. Et puis, il y a eu Giscard d'Estaing, François Mitterrand, on a monté la protection du patrimoine. Ensuite, il y a eu Chirac, c'est resté à peu près stable. Et puis, ça a commencé à descendre un peu avec Sarkozy, Hollande. Et là, je fais un peu de politique là, mais c'est pas de la politique, c'est de la politique patrimoniale. On a un détricotage des lois de protection du patrimoine et on a le paysage qui devient épouvantable avec beaucoup de choses, les éoliennes, avec une écologie qui pour moi n'est pas bien comprise. Et surtout, on devrait se poser la question de la du mitage du paysage et puis de la destruction du patrimoine parce qu'il y a eu des lois. Par exemple, on peut maintenant démolir des bâtiments dans des zones classées sous prétexte que le bâtiment s'écroule, alors qu'en fait il ne s'écroule pas, mais il suffit que le maire trouve quelqu'un pour le faire, et on va pour lui dire que ça va s'écrouler, et on le casse. Le problème, c'est que la protection du patrimoine et le financement du patrimoine, ce sont deux aspects aussi importants. Voilà, donc le patrimoine ne s'écroule pas tout seul, des fois il est détruit.
C'est ce que vous observez, Pierre Dubreuil, depuis 2017, hein, c'est la date que vous visiez oui. Sans la nommer, Didier Rickner. On observe un détricotage des lois qui engendre une destruction progressive. Je vous crois, mais en tout cas je pose la question à Pierre Dubreuil, une destruction du patrimoine ?
Non, je ne pourrais pas dire ça, moi je ne parle que de ce que je vois, c'est-à-dire l'aile François 1er. Ce que je vois, c'est que c'est
une aile qui appartient au château de Chambord, oui, et qui est en très mauvais état aujourd'hui, qui est même fermée.
Oui, dans l'extrait que vous avez passé, le château de Meaux, on entend qu'il s'effondre et il peut disparaître. En fait, moi, je suis hanté par une idée, c'est que le patrimoine auquel on est attaché, tout ça ici, disparaisse et qu'on puisse plus le transmettre. Et quand je suis entré dans l'aile François 1er, peu de temps après mon mandat, avec les représentants de la Cour des comptes qui m'ont regardé, qui m'ont dit, là, il va falloir faire quelque chose d'urgence. Les planchers.
Il y a quoi dans l'aile François 1er qu'on se représente les images, les choses,
mais j'ai fait entrer la presse récemment. Vous avez des planchers qui s'effondrent. Il y a des visiteurs qui sont passés il y a 20 ans à travers le plancher. Vous avez des murs. Alors, il y a deux sujets. Il y a le sujet du changement climatique qui fait que inondation, sécheresse répétée fait que le bâtiment travaille dans ses fondements parce qu'il est entouré d'eau. Dans les douves, et puis il y a des radis en bois qui sont pas très loin, et puis des constructions en pierre. Donc bref, il travaille en fait à sa base, et en haut de la structure, aussi parce que sans doute il a été conçu trop vite, entre 1539 et 1544, à la fin du règne de François Ier, et finalement, il y a une étape qui n'a pas été faite dans la finition, et ensuite, dans les étapes successives, notamment Louis XIV, et au 18e, 19e, il y a eu des compléments au bâtiment qui l'ont alourdi, et qui font que aujourd'hui, vous avez des murs qui s'écartent. Donc vous avez 50 cm d'écart entre le mur et le plancher.
Et cette détérioration que vous décrivez, c'est le fruit du réchauffement climatique principalement ?
À la fois du changement climatique qui s'accélère et dont les effets pèsent sur le château avec l'âge, et des vices de construction et des amendements à la construction qui ont rajouté des murs de refend, par exemple, qui ont alourdi les structures. Aujourd'hui, vous avez des fissures partout qui cassent les pierres, avec des témoins de fissures qui font 10 cm. Donc, je vous assure que le spectacle, ça a impressionné les journalistes, et pour ça qu'on en parle beaucoup, parce qu'on avait un peu mis la... Enfin, on n'avait pas montré ça, et puis ça fait un moment que ça dure, hein, ça date pas d'hier. Là, si on ne fait rien, on peut perdre ce patrimoine. Vous vous rendez compte ? L'aile éponyme du roi fondateur de ce château qui pourrait disparaître. En fait, de l'extérieur, on voit rien. On a l'impression que tout va bien, parce que ça se voit pas. C'est à l'intérieur que ça va pas. Donc voilà, c'est un chantier qui n'est pas pharaonique, hein, c'est 37 millions, mais c'est beaucoup.
Bon là, Didier Rickner...
37 millions, c'est pas énorme finalement non. Par rapport à la gamme qu'on voit un peu partout.
Là, en l'occurrence, ce que nous décrit Pierre Dubreuil, ce n'est pas le fruit du détricotage législatif entre depuis 2017.
Non, pas du tout. Je dis simplement qu'il y a deux choses, il y a deux aspects. Il y a le financement et il y a le détricotage législatif qui est avéré. Enfin, je peux prendre la loi Elan, enfin, il y a un certain nombre de lois qui sont beaucoup moins fortes qu'avant. Mais pour cela, 37 millions, est-ce que vous vous rendez compte, 37 millions, quand on voit la gabegie, je vais prendre quelque chose qui m'intéresse aujourd'hui, c'est par exemple, je parle beaucoup du Louvre, le projet nouvelle entrée de salle souterraine du Louvre, qui est totalement, à mon sens, inutile, qui n'est pas, enfin bon, que la Cour des comptes...
Pour permettre d'accéder directement à Mona Lisa, notamment.
Oui, c'est ça, enfin tout cela, on peut le résoudre autrement, c'est 666 millions d'euros. Alors 37 millions d'euros, c'est ridicule. On a restauré, pour 500 millions d'euros, le Grand Palais, avec des salles d'exposition qui servait au Louvre avant. Le Louvre veut plus aller là-bas. Il veut avoir ses salles d'exposition. Vous vous rendez compte des économies qu'on peut faire? Alors, je dis pas que c'est le budget, bien sûr, on passe pas d'un budget à l'autre, mais l'argent, on le trouve. Quand on veut le trouver, 37 millions d'euros, quand on voit la gabegie un peu partout, c'est terrible de voir ça, qu'avec 37 millions, Chambord a besoin de 37 millions d'euros, ça devrait tout de suite être donné, voilà, point.
Pourquoi on le trouve pas d'ailleurs directement cet argent, au domaine de Chambord, Pierre Dubreuil, vous le disiez, hein, plus d'un million de visiteurs par an, chaque année, par an justement donc, et puis un taux d'autofinancement de 105%, il faut demander à l'État, là aussi, de vous appuyer ?
Bah, attendez, c'est 105... enfin, déjà, il n'y a pas d'établissement public autofinancé à hauteur de 105%.
C'est une exception dans le paysage français, donc, il faut le signaler. Hein.
Déjà, oui, c'est une exception, on est sans doute les seuls à ce niveau-là. Les salaires des agents de Chambord sont payés par les visiteurs, enfin, par la ressource propre, par la billetterie, particulièrement. Enfin, après, il y a d'autres sources du mécénat. Donc, déjà, on fait ça, donc on ne sollicite pas l'État ou très peu l'État là-dessus. Donc, permettez-nous quand même de demander un peu d'argent pour la restauration du château qui fait 440 pièces, 350 cheminées et une aile François 1er. Donc, faut distinguer le fonctionnement. Je sais bien que c'est un peu technique, mais c'est pas techno. Le fonctionnement et l'investissement. Donc, on consacre une partie de... Parce que comme on arrive à gagner de l'argent, à dégager du résultat, comme on dit dans une entreprise, on peut en consacrer une partie pour le lancement de la sauvegarde de l'aile François 1er. Nous allons mettre 5 millions sur la table. Là, les parlementaires ont adopté un amendement qui, j'espère, sera adopté en loi de finances in fine de 6 millions qui nous permettra de lancer la phase de sauvetage des 12 sur les 37. Et après, il va falloir trouver d'autres argent. Je lance du mécénat, je vous assure que je m'active comme je le peux pour trouver de l'argent. Mais on n'est pas les seuls. Hein, c'est comme le dit Eric Nair, il y a d'autres monuments que
le ministère de la Culture. Quand le ministère, alors je sais bien qu'il a du plomb dans l'aile et puis qu'on diminue, etc. Mais le pass culture, on a voulu créer le pass culture, ça a coûté des centaines de millions d'euros, on les a trouvés comme ça. Comme ça. Et pour Chambord, on ne trouve pas 37 millions d'euros. Moi, ça me révolte. Mais vraiment. Hein.
Alors justement, Didier Reckner, vous qui réfléchissez à ces questions, comment financer le patrimoine, son entretien, sa restauration, où est-ce qu'on trouve l'argent aujourd'hui pour le permettre justement de maintenir vivant ce patrimoine français?
Alors je vous remercie de pouvoir dire ici une nouvelle fois deux solutions qui ne sont pas que des solutions à moi, je les ai prises un peu à droite à gauche, mais que je répète régulièrement et j'espère qu'un jour ça va pouvoir atteindre le cerveau de nos dirigeants.
Poursuivez votre campagne.
Voilà. Il y a deux solutions. Alors, moi, je rends hommage à Stéphane Bern, qui fait énormément pour le patrimoine et qui est à l'origine du loto du patrimoine. C'est formidable. Mais le loto du patrimoine, malheureusement, c'est quelques dizaines de millions d'euros. C'est bien, mais c'est loin d'être suffisant. Il faut savoir que sur toutes les mises de la Française des Jeux, 1,8% est actuellement donné au sport. Personne ne le sait. Ça ne coûte rien au budget de l'État. Ça a été pris simplement ce qui est redistribué aux joueurs. Si vous faites la même chose pour le patrimoine, 1,8%, et que vous ne prenez pas cela sur ce qui est donné à l'État français, puisque l'État n'a plus d'argent, ce qui est donné à la Française des Jeux, qui maintenant est privée, mais simplement sur ce qui est redistribué aux joueurs. Ça veut dire quoi ? Il y aura peut-être une fois par an un gros lot en moins. Ça ne se verra pas. Ça ne se verra pas. Ça sera totalement transparent pour
et
le budget de l'État.
Et ça présente quoi en masse, en volume ?
Alors justement, je vais revenir parce que j'ai deux solutions, et les deux solutions, c'est énorme. Donc ça, c'est la première solution qui est vraiment facile à mettre en place et qui ne coûtera rien à personne. Mais vraiment, hein, ça coûtera simplement aux joueurs, mais qui gagneront peut-être un petit peu moins, mais qui ne le sauront pas, parce que, voilà, quand vous ne gagnez pas, vous ne gagnez pas. Et le deuxième, c'est la taxe de séjour, qui est moins forte en France qu'elle ne l'est à l'étranger. Et je crois d'ailleurs, si je ne me trompe pas, on m'a dit que pendant les Jeux Olympiques, on avait un peu augmenté la taxe de séjour à Paris. Bon, bref. Eh bien, si vous rajoutez, disons, 1 euro, soyons ambitieux, par la taxe de séjour, 15 jours en France, ça coûtera 15 euros à la personne qui visite la France, qui souvent va visiter les monuments. 15 euros sur un séjour de 15 jours en France, ça n'est rien. On parle de micro-taxes, parce que là, on n'arrête pas de vouloir taxer tout. Alors, quelqu'un m'a dit, même la ministre de la Culture à l'époque, Rosine Majlot, m'a dit, vous voulez taxer encore ? Mais attendez, on parle de micro-taxes, qui, pour une part, va concerner les visiteurs étrangers de la France, parce que c'est beaucoup... Là, on est prêt à augmenter le prix du Louvre de manière délirante, de 10 euros par entrée, et là, on ne veut pas 1 euro pour tous, les Français comme les étrangers qui visitent la France, et qui passent une nuit dans un hôtel. Si vous faites les deux choses, ça rapporte, allez, disons, pour être raisonnable, 800 millions d'euros par an. À 1 milliard, 800 millions d'euros. C'est énorme ! C'est énorme ! Vous rajoutez ça à ça l'argent qui est donné tous les ans, 300 à 400 millions d'euros pour le patrimoine, mais vous pouvez non seulement sauver le patrimoine, mais aussi vous pouvez en prendre pour les musées. Enfin, c'est énormément d'argent qui ne coûtera rien.
Pierre Dubreuil, votre point de vue, votre réaction à cette double proposition en une ?
Non, moi j'accueille toutes les solutions innovantes pour trouver de l'argent pour le patrimoine avec bienveillance et intérêt. Voilà, parce qu'il y a sans doute plusieurs outils. Vous savez, en fait, quand on réfléchit à ça, le dernier grand plan pour sauver le patrimoine, c'était Malraux en 1962. Il y a besoin d'un nouveau grand plan Malraux, en fait, pour sauver le patrimoine en France. Donc il va falloir des leviers de financement, parce que l'État n'a pas les moyens aujourd'hui d'assurer. Et j'en profite pour saluer, moi, le ministère de la Culture qui me soutient, là, qui va me donner 2 millions en fin de gestion, qui va récupérer je ne sais où, et qui va m'aider, qui a voté en faveur de l'amendement dont j'ai parlé tout à l'heure pour 6 millions. Donc, Bizarre Lecture soutient ça, et puis président de la République aussi est très sensible. Néanmoins, ça suffira pas. La Fondation du patrimoine, demain, je vais signer une convention, la Fondation du patrimoine va me donner 1,5 million. Et Stéphane Bern est parrain de l'opération de l'Aide François 1er. Néanmoins, il faudra trouver de l'argent ailleurs. Donc, je veux dire, ce sont des idées à soumettre au ministère des Finances, à Bercy. Mais vous savez, moi, je peux pas être contre ce genre d'idées parce que j'ai créé le loto de la biodiversité. Mission Nature, qui est en fait sur le modèle de l'auto du patrimoine, un loto de Française des Jeux qui consiste à prélever une partie d'un ticket, du ticket pour financer la biodiversité. J'ai créé ça. C'est une idée. Bon, quant aux taxes, moi je suis un serviteur de l'État, donc je ne me prononcerai pas sur la politique fiscale.
Ce qui veut dire, c'est que, oui, on dit, alors, et c'est pour ça que je propose cela, c'est que ça ne coûte rien à l'État, mais quand on dit que l'État n'a pas les moyens de retenir le patrimoine, ça me fait doucement rire. Le budget, je crois, si je vous corrigerai si je dis des bêtises, mais le budget du ministère de la Culture, je crois que c'est 1% du budget de l'État. Et là-dessus, combien va au patrimoine ?
1%, c'est l'objectif. On parle tout le temps du budget
de la culture. Mais le budget de la culture, c'est la moitié déjà qui va à l'audiovisuel public. Je ne vais pas dire du mal de l'audiovisuel public, surtout ici.
Mais vous avez le droit, c'est un espace de liberté, l'audiovisuel public.
Voilà, il y a l'audiovisuel public. Et il y a donc il y a 0,5%.
Spectacle vivant aussi.
0,5, mais il y a 0,5% qui va pour le spectacle vivant. Voilà. C'est rien du tout. Le patrimoine, ça n'est rien. Sauver le patrimoine français, si l'État le voulait vraiment, il pourrait le faire et ça ne creuserait pas le déficit de l'État. Mais bon, comme il ne le fait pas, c'est pour ça que je propose d'autres choses.
Je vous prends au mot, Pierre Dubreuil. Vous parliez en introduction de cette émission de patrimoine français au pluriel. Vous êtes, j'allais dire, dans le haut de la botte, parmi les chanceux aussi. Vous avez la capacité d'attirer les médias sur votre situation. Vous êtes un EPIC, un établissement public d'intérêt commercial. Donc aussi, vous avez la capacité de mobiliser des acteurs privés, de nouer des partenariats. Bref, vous avez, entre guillemets, de la chance dans cette situation compliquée qui est la vôtre. La petite chapelle de Mussy-Soudun, par exemple, chez moi, en Saône-et-Loire, tout est plus compliqué pour ces petits lieux patrimoniaux. Comment là aussi aider ces petits espaces ?
Enfin oui et non hein, en fait
parce pas que si chanceux.
on est trop gros pour être dans l'auto du patrimoine par exemple précisément où les petites églises et petits châteaux et tant mieux pour eux hein et on est un peu loin de Paris. Le problème de Chambord si vous voulez c'est que moi, c'est ma petit
complet.
Vous me pardonnerez, nous sommes à Paris ici. Classe moyenne. Enfin, Chambord, c'est la classe mondiale parce que c'est le patrimoine mondial de l'humanité. Donc, on n'est pas classe moyenne, non. Et je pense que c'est une des merveilles du monde. Donc, en revanche, être à 2 heures de Paris pour les mécènes très parisiens qui financent les grands monuments parisiens et dont j'observe parfois un excès de parisianisme, pour tout vous dire. Mm-hmm. J'ai dû un peu du mal de temps en temps. Encore quand ils arrivent à Chambord, c'est loin, 2 heures. Mais bon, alors, il y a des atouts pour les faire venir, néanmoins, mais c'est difficile.
C'est difficile d'attirer les mécènes ?
L'éloignement, oui, c'est difficile, bien sûr. Et la concurrence avec Paris n'aide pas pour les très grands groupes qui préfèrent parfois financer le Louvre, Versailles ou d'autres. Oui, je vous le cache pas. Donc après, il y a les amoureux de Chambord qu'on va chercher, mais il faut structurer tout ça. Ensuite, je vais vous dire quelque chose. J'ai lancé une opération avec nos équipes qui s'appelle Chambord a besoin de vous, qui est un mécénat participatif. On a lancé à l'occasion des Journées européennes du patrimoine, dont le thème était l'architecture. Je me suis dit, si on lance pas ça maintenant, avec le concert monumental autour de Canitro, qui est d'ailleurs un moment assez exceptionnel. Bref. Et là encore, qui met en majesté le château sans le dénaturer. Et j'ai lancé ça tout en ayant conscience que ça ne réunirait pas 37 millions. Mais le résultat, c'est qu'on a aujourd'hui 400 000 quasiment, avec 4 000 donateurs. Et vous savez, les gens m'écrivent, envoient des chèques de 50 euros. Le don moyen, c'est 106 euros. Les gens écrivent en disant, vous voyez, j'ai une église à côté de chez moi, le village dont vous avez évoqué le nom, un petit château dans l'Isère, il s'écroule, je peux pas le restaurer, on n'a pas les moyens, mon maire me dit que je donne à Chambord parce que j'ai l'impression, par procuration, de sauver le patrimoine. C'est extrêmement touchant comme message. Et en fait, ce qui prouve que, par procuration, le patrimoine, ça touche à l'identité des gens, vous comprenez ? Donc en sauvant Chambord, les gens ont l'impression de sauver leur patrimoine. Et je peux vous dire qu'avec cette opération Chambord a besoin de vous, j'ai vu à quel point les Français sont attachés à ce qui, sans doute, est un des murs porteurs, fissurés peut-être, de leur identité.
Didier Reckner.
Moi, je pense que vraiment, Chambord, c'est formidable ce qui est fait, mais Chambord, ça appartient à l'État, il devrait être restauré par l'État qui a les moyens. Rappelons que Notre-Dame a été restaurée pour 800 millions, 840 millions après l'incendie, ça n'a pas coûté un sou à l'État, parce que c'est du mécénat et que les déductions fiscales qui ont été loin d'être sur les 840 millions sont compensées largement par, c'est la Cour des comptes qui l'a dit, par la TVA. C'est-à-dire que l'État est son propre assureur et finalement, on a l'impression que l'État a restauré Notre-Dame. Il n'a pas restauré Notre-Dame, ça ne lui a rien coûté, ça lui a même rapporté de l'argent. Cet argent, pourquoi est-ce qu'il ne le donne pas, par exemple, à Chambord ?
Comment vous évaluez vos résultats, Pierre Dubreuil? J'allais dire du point de vue de la fréquentation. On l'a dit, 1 million de personnes, 1 million de visiteurs chaque année.
1 200 000.
1 200 000, c'est colossal. Est-ce que vous avez rajeuni votre public, diversifié ce public?
Oui, alors on mène des études de public parce qu'il faut être aussi rigoureux en la matière. J'ai pas assez de données pour vous dire ça. Par contre, je peux vous dire que c'est 60% de Français et 40% d'étrangers. Et que la part des étrangers augmente à mesure que celle des Français diminue. En fait, ça veut dire que notre fréquentation est très dynamique parce que les Français continuent d'être très intéressés et de venir beaucoup en nombre. Et que les étrangers viennent de plus en plus. Après le Covid, notamment les Américains, les Asiatiques. Donc... nos résultats sont excellents. Là, je pense que j'attends la fin de l'année, mais Noël à Chambord, c'est toujours une période importante. On va encore battre un record de fréquentation. La question, c'est jusqu'où? Moi, je vous le dis, attirer sans dénaturer et être attractif sans dégrader. C'est-à-dire qu'il faut... Il n'y a pas de limite de nombre. Je pense qu'on peut accueillir plus, simplement. Comme Didier Ricknert le disait, enfin, il faut être extrêmement vigilant pour pas dégrader le patrimoine. Alors, on a la chance d'avoir un peu moins de collections que dans Colouvre ou dans d'autres musées, mais on en a quand même. Et puis de l'art contemporain aussi, de temps en temps. Enfin, donc, il y a des tapisseries, il y a parfois des œuvres, comme je vous l'ai dit, de Botticelli. Donc, la limite, c'est ça. Ça veut dire qu'il faut... aménager des espaces d'accueil pour gérer des flux, faire en sorte qu'on ne soit jamais en situation d'excès pour faire que le monument, finalement, soit pas respecté et que ce patrimoine... Donc, si vous êtes conservateur, serviteur, dépositaire du patrimoine, vous devez d'abord le faire en sorte que sa valorisation, sa conservation soit assurée. C'est pas incompatible avec un public important, mais c'est la limite. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous procédons actuellement à un schéma directeur pour aménager des espaces d'accueil qui vont permettre de fluidifier les flux.
Je reviens un instant là-dessus, Didier Ricknert, lorsque Pierre Dubreuil pointe l'excès de parisianisme de certains mécènes, de certains acteurs, c'est une chose qui vous surprend ?
Non, ça ne me surprend pas. La France est un pays très centralisé. Il faut effectivement... Moi, je regrette, par exemple, sur les... Il n'y a pas suffisamment de collections dans Chambord. Il y a beaucoup de pièces qui sont vides. Et moi, j'aimerais bien que Chambord puisse avoir plus de collections. Alors, il y a des acquisitions, mais c'est compliqué. Mais il pourrait y avoir des dépôts. Il y a beaucoup de musées en France qui ont des œuvres qui ne sortent pas des réserves. Et ben, moi, je préférerais qu'elles soient exposées à Chambord. Alors, je sais qu'on a discuté un petit peu avant. Je crois que vous voulez vraiment vous concentrer sur la Renaissance. Mais il y a peut-être des... Ça pourrait être aussi la vision de la Renaissance par le 19e siècle. Il y a de grands tableaux roulés dans les réserves des musées français qui présentent des scènes de la Renaissance du 19e. On pourrait très bien les restaurer, les exposer à Chambord, par exemple. Il faut avoir des idées. Mais je suis sûr que Chambord serait ravi, mais il y a d'autres musées qui ne sont pas forcément ravis de déposer alors qu'ils les ont en réserve.
Pierre Dubreuil, d'un mot. Vous avez levé le pouce quand même.
Oui, parce que je suis tout à fait d'accord avec Didier Ricknert. Mais encore plus, je pense qu'il faut avoir conscience qu'il y a des tas d'œuvres qui sont... J'en ai parlé avec la présidente du Louvre, j'en ai parlé avec le président de Versailles. Et je leur ai dit, donnez-moi des œuvres en dépôt. On les conservera bien, parce qu'il faut avoir conscience que le public qui viendra admirer une œuvre de la Renaissance, un Titien ou un Caravage, qui peut voyager, ou une œuvre du siècle de Louis XIV à Chambord, vous attirez un public qui n'ira peut-être jamais au Louvre. Alors qu'il y a pléthore d'œuvres qui sont dans les réserves, peut-être, là, vous permettrez de faire accéder au plus beau de la peinture française des gens qui n'auraient pas forcément accès à ces œuvres-là en revenant à Paris. Donc, je pense que c'est une œuvre de démocratisation culturelle et en même temps, un levier de financement. Quand il y a eu la Vierge et l'Enfant de Botticelli, 30% de fréquentation en plus.
Et la dernière fois que je suis venu au château de Chambord, dans une salle passionnante d'ailleurs consacrée au château de Chambord durant la Seconde Guerre mondiale, j'ai appris que la Mona Lisa avait été gardée au château quelques années.
J'ai pas eu l'outrecuidance et la prétention de demander le retour de la Joconde à Chambord à Laurence Descartes. Mais s'il y a une pétition pour, je la signerai.
C'est une idée de plus dans cette émission. Merci encore à vous deux pour cette discussion, ce débat parfois. Didier Ricknert, directeur de la rédaction de latribunedelart.com et Pierre Dubreuil, directeur général du domaine national de Chambord. Merci à vous deux. Et merci à celles et ceux qui ont fait et pensé cette émission. Antoine Héral, Stéphanie Villeneuve, Diane Devancet, Mathias Mégy.